terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Je reçois, mais avec vraiment beaucoup de plaisir, Elina Timsit. Merci, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation vite comme ça.
Hein. Bonjour,
voilà, je veux essayer de vous présenter. Je dis bien essayer. Vous êtes auteur, autrice, éditrice, parce que vous avez cette maison d'édition Prolepse, une maison d'édition féministe. Prolepse, c'est quoi? C'est une figure de style de l'anticipation, vous dites.
Hein. Exactement,
c'est ça,
ouais. C'est ça.
Vous anticipez quoi?
Un futur meilleur pour la diversité.
Ok, bon, un futur meilleur pour la diversité. Voilà, c'est une maison d'édition qui est née en 2016.
Vous êtes la... 2016.
2016, oui, c'est ça. Vous êtes la première femme afrodescendante à créer une maison d'édition. Vous êtes à compte d'éditeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est quoi?
C'est une maison qui, on va faire simple, mm-hmm. qui paye tout à l'auteur, comme Gallimard, Hachette ou n'importe quelle maison d'édition très classique, Boréal, etc.
Ok, qui paye tout à l'éditeur, oui.
Qui paye, qui fait pas payer l'auteur,
qui fait pas payer de livres, qui fait pas payer des
services. Ouais. C'est contre une redevance.
Mmh. Ah oui, ok, d'accord. Autre chose, j'ai dit, ok, vous êtes autrice, vous êtes éditrice, mais il y a aussi une autre chose, c'est que vous êtes accompagnante en écriture créative. Oui. Alors ça m'a beaucoup, justement, ça fait aussi partie des choses pour lesquelles je souhaitais vous recevoir, Elina Timsit. Accompagnante en écriture créative, c'est-à-dire quoi?
Pour faire simple, j'aide les gens à écrire leurs livres, en fait. Je les accompagne dans l'écriture de leurs livres.
C'est pas ça le travail d'une éditrice?
Pour l'accompagnement, c'est vraiment avant le manuscrit, c'est vraiment à partir de l'idée jusqu'au manuscrit. Mm-hmm. C'est, alors que moi, en tant qu'éditrice, je prends à partir du manuscrit. Ce sont deux services différents. Mm-hmm. Habituellement, les gens que j'accompagne, je ne les édite pas.
D'accord.
Pour éviter justement d'avoir, entre guillemets, ce paiement implicite qui vu que vraiment je tiens à ce que l'édition soit vraiment à compte d'éditeur et qu'il n'y ait pas de mélange entre les deux,
c'est ça. Une fois que j'ai dit ça, avant d'être éditrice quand même, vous avez, vous avez un DESS en édition professionnelle que vous avez obtenu à l'université de Sherbrooke. Puis vous avez travaillé en maison d'édition, vous avez vraiment une expérience là-dessus. Oui. Et c'est, puis est-ce que si je dis que c'est au sortir de ces différentes expériences que vous avez décidé de lancer votre maison d'édition ou qu'est-ce qui fait, pourquoi vous lancez, allez? Reprenons la question simplement. Pourquoi vous décidez de créer votre maison d'édition alors que vous auriez peut-être pu rester dans, et j'ouvre de grosses guillemets, dans un confort de maison d'édition où vous travailliez avant?
Je ne travaillais pas dans une maison d'édition avant. J'étais déjà travailleuse autonome,
okay.
mais en communication marketing. Okay. Donc j'étais rédactrice, réviseur, traductrice, je faisais de la community management, etc. Mmh. Depuis 2010 à peu près, 2011. Puis mon fils est né et je commençais à en avoir un peu assez de faire ce que je faisais, ça me plaisait plus tant. Puis j'avais fait des stages en maison d'édition, j'avais travaillé en maison d'édition, j'avais une partie de mon DESS qui était fait et j'étais... l'édition m'attire, j'aimerais vraiment travailler là-dedans. Donc j'ai commencé pour me dire, après mon congé de maternité, je vais vraiment trouver un travail en édition, puis je vais trouver un travail salarié. Et j'ai commencé à chercher, et puis je regardais des choses qui étaient en accord avec mes valeurs. Alors évidemment, j'en ai trouvé, mais alors c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus en édition, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des maisons d'édition, et surtout, elles recrutent très peu. Et ce que je comprends, parce que les gens, une fois qu'ils sont en place, ils ne veulent plus partir de la maison d'édition.
Ah, okay. Vu comme ça, oui.
Parce que c'est difficile d'avoir une place. Donc, quand on l'a, on la garde. Et je me suis rendu compte que déjà, un, j'aimais le travail indépendant. Et deux, je ne trouvais pas de poste et de maison d'édition qui était vraiment en accord totalement avec mes valeurs. Donc, je me suis dit, on va se lancer. Donc, j'ai commencé un parcours avec le SAGE, qui est l'ancienne école des entrepreneurs. J'ai commencé à travailler sur mon plan d'affaires, etc. Je travaillais avec une partenaire qui, malheureusement, a dû quitter le projet. Puis je me suis dit, bon, bah, je vais le faire toute seule. Et donc, je suis allée enregistrer au registraire des entreprises, puis tout ça a commencé comme ça. Mmh.
Maison d'édition féministe.
Oui.
Ça veut dire quoi, une maison d'édition féministe? De ma compréhension, et arrêtez-moi tout de suite si vous sentez déjà que je dérape, vous n'éditez que des femmes, c'est ça?
Non. Okay. Féministe et inclusive. Moi, je suis pour un féminisme intersectionnel, okay. Donc un féminisme qui prend en compte les différentes oppressions et qui inclut toutes les autres différentes oppressions, parce que je pense que le féminisme n'aide pas que les femmes. Elle aide les gens qui vivent des oppressions at large, et elle aide même les hommes à justement se libérer des stéréotypes, de certaines contraintes qu'ils ont dans la société. Donc le féminisme, pour moi, c'est large, c'est pas juste les femmes. Et c'est pour ça que j'ai rajouté inclusive il y a quelques années, parce que justement les gens le comprenaient comme ça. Mmh. Et non, en fait, je publie des femmes, je publie des hommes, je publie des gens qui subissent des oppressions systémiques. Donc par exemple, j'ai un auteur en situation de handicap, j'ai une autrice haïtienne, et en fait, j'ai aussi une autrice en situation de handicap mental. Donc vraiment, j'essaye d'avoir des voix qu'on n'entend pas ailleurs. En fait, c'est vraiment ça le but. C'est pas vraiment de publier que des femmes ou que des femmes noires ou que des femmes avec telle ou telle caractéristique. C'est vraiment, publier les gens qu'on entend nulle part.
Qu'on entend nulle part, tout exactement. À fait. Ok, je comprends quand vous avez dit tantôt prolepse, parce que vous anticipez un monde avec une meilleure
diversité. Même si j'aime pas trop ce mot-là, mais oui. Disons une...
Vous le remplaceriez par quoi, vous, femme de mots?
Pour l'instant, je bute un peu là-dessus. Mmh. Mais ce que je veux, c'est que justement les personnes que j'appelle marginalisées ne le soient plus.
Okay.
C'est vraiment qu'en fait, ça devienne juste normal, tout comme le mois de l'histoire des Noirs, le mois de la femme, le mois de ceci, le mois de cela. On ne devrait pas avoir ça.
Ce sont des choses que vous mettez de côté. Et, mais vous me permettrez d'ajouter quand même une information vous concernant, parce que ça va permettre, à mon avis, de comprendre un peu votre travail. Vous êtes aussi, vous dites neuro-atypique.
Oui.
Je n'ai pas bien compris ce que ça... Du moins, j'ai lu ça, mais je n'ai pas compris ce que ça voulait dire.
Est-ce je suis autiste.
Que vous voulez, vous, ok, c'est, ah, okay c'est le mot autiste. Oui. D'accord. Je comprends maintenant. Parce que j'avais une question sur... j'ai vu ça en lisant un peu sur vous. Comment vous avez dit? La neuro... Vous êtes spécialiste en neurolittérature ou quelque chose comme ça?
Ah, ça, c'est deux choses différentes. Oui, je suis neuroatypique, je suis autiste.
Oui.
Ça, c'est... Et puis, j'ai un trouble de l'attention. Mm-hmm. Et à côté, je me spécialise en neurosciences de la littérature. Donc ça, c'est un autre sujet.
Ça, c'est un autre sujet.
Et en fait, j'aide les gens justement à écrire leurs livres, mm-hmm. en comprenant mieux leur cerveau et comment fonctionne le cerveau des gens qui les lisent aussi. Puis comment on fait pour connecter les deux. En gros, c'est ça.
Alors quand vous dites en gros, c'est ça, là, vous, ça vous paraît...
Oui, non, c'est...
facile, mais... Non, non, je suis curieux de comprendre un peu ça. Ok. Parce que quand quand j'écris, je pense que c'est mon cerveau qui m'aide à écrire.
Exactement.
Quand je lis, c'est mon cerveau aussi qui m'aide
exactement.
À... Ok. Donc j'aurais juste dit littérature. Non, vous, c'est le lien entre tout ça.
Parce que j'explique vraiment les mécanismes du cerveau qui sont en jeu de manière plus précise.
D'accord.
Quand on écrit et quand on lit, parce qu'on dit souvent que l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire et que la lecture aussi, c'est quelque chose de solitaire, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est une communication entre deux personnes qui ne se rencontreront jamais.
Okay. Celui qui écrit, la personne qui écrit, celle qui écrit,
exactement.
Et la personne qui lit.
Donc, j'aide les auteurs et les autrices, en fait, à mieux se connaître, mieux connaître comment fonctionne leur cerveau, tout ce qui est ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, donc dopamine, endorphine, etc., qui ont un impact sur nous au quotidien et qui jouent aussi sur la motivation, sur la procrastination, sur la manière dont on aborde certains sujets. Donc, je les aide à naviguer à travers en se comprenant mieux. Mmh. Et de l'autre côté, pour que la communication, justement, se fasse bien avec les personnes qui les lisent, pour que leur message soit bien compris, qu'ils puissent passer les émotions qu'ils veulent, je leur explique un peu comment, qu'est-ce qui se passe quand un être humain lit, puis comment il peut interpréter telle ou telle chose selon le rythme, selon le style, selon les mots utilisés dans un livre.
Ok, ouais, je comprends. Est-ce que tout le monde peut écrire ?
Oui.
Vous dites oui ? Oui. Tout le monde peut écrire ?
Oui.
Mais tout le monde n'écrit pas. Je pose la question parce que vous êtes interrogé. Vous avez posé la question, vous avez expliqué que quand quelqu'un vient vous voir, mm-hmm. si j'ai bien compris, l'une des premières questions que vous posez, c'est pourquoi est-ce qu'il veut écrire ?
Oui, exactement. Je demande toujours pourquoi on veut écrire, qu'est-ce qui nous motive. Et ce n'est pas juste dans les biographies ou les autobiographies, même dans la fiction. On a souvent un message. Par exemple, j'ai une des autrices de ma maison d'édition. Elle, ce qui la touchait vraiment, c'était l'écologie, le féminisme. Et c'est ce qu'elle a voulu transmettre dans le livre qu'elle a publié avec moi. J'ai aussi d'autres autrices qui travaillent avec moi en accompagnement cette fois, qui écrivent de la science-fiction, mais elles ont envie de montrer, par exemple, le rapport à la différence, le rapport aux autres, le rapport à la société dans laquelle on est. Donc je cherche vraiment à leur montrer qu'au-delà de juste l'envie d'écrire, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus profond et que c'est ça qui doit ressortir.
Ok. Même dans la fiction, vous dites, hein ?
Totalement.
Il y a quelque chose qui... Oui, Malia, oui. Mm-hmm. Attends, je pense que ton micro est... Vas-y.
Est-ce qu'il y a une mauvaise raison pour laquelle on écrirait ?
Je dirais à partir du moment où on veut faire du mal aux autres. Mm. À partir du moment où on veut blesser, à partir du moment où on veut oppresser, à partir du moment où on veut discriminer. Je pense que ça peut être une mauvaise raison d'écrire. Après, tout le monde est libre d'écrire et de dire ce qu'il veut, entre guillemets, dans le cadre de la loi. Mais je pense que l'importance de la littérature et des mots, parce qu'on sait que la première chose qui se fait brûler dans un régime totalitaire, c'est les livres.
C'est vrai.
Je pense que la littérature est faite pour élever les consciences, élever les gens qui lisent, élever notre perception du monde qui nous entoure, en fait. Et je pense que si on a ce but de rabaisser... Je pense qu'on rate le but de la littérature.
Donc toute personne qui écrit aurait une responsabilité morale de citoyen envers...
Bien sûr.
Des... Okay.
C'est ça. Tu viens d'utiliser le mot, Malia, morale. Parce que là, est-ce que là, on ne rentre pas plutôt dans un jugement moral ? Est-ce qu'on n'est pas plus dans la morale si on commence à juger l'écriture en fonction du message que la personne... Parce que vous disiez, si on veut blesser, ben là, peut-être qu'on n'a pas... C'est une mauvaise raison pour écrire. Est-ce que là, on ne rentre pas plus dans la morale ? Parce que moi, au début, en vous posant la question, c'était de savoir écrire un livre.
Oui.
Tout le monde peut se le... Bon, écrire, on tape aujourd'hui, là, chacun peut écrire. Puis vous disiez, oui, mais il faut d'abord savoir pourquoi on veut écrire.
Je pense que, de toute manière, quand on veut écrire un livre, pourquoi il faut savoir pourquoi on écrit ? Déjà parce que si on ne sait pas pourquoi on écrit, en fait, on va juste mettre des mots côte à côte sans avoir de réel sens. Sauf que, en fait, votre cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Dans le sens où un cerveau, que ça soit des mots écrits, que ça soit un film, que ça soit... Alors évidemment, de manière consciente, comme adulte, on fait cette différence-là. Mais de manière inconsciente, on ne le fait pas. D'ailleurs, les enfants sont les premiers à voir un vampire à la télé et penser qu'il va venir l'attaquer le soir. En fait, on perd cette conscience-là avec... cette inconscience-là en grandissant, en ayant un cerveau conscient plus défini. Mais en fait, le cerveau, à la base, ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc ce qu'on écrit, la personne en face va le prendre comme une réalité. C'est d'ailleurs comme ça que tout le débat sur les fake news, sur les théories du complot, sur toutes les choses qu'on peut voir... sur Internet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent. Parce que même si ça peut être prouvé, je ne sais pas, par la science que ça n'existe pas, les gens vont y croire quand même. Parce qu'en fait, leur cerveau ne fait pas la différence. Et le truc, c'est que ça répond à des peurs. Eux, ils ont des réponses à leurs peurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pendant la Covid, je raconte toujours cette histoire-là, mais pendant la Covid-19, en fait, au tout début, en mars-avril 2020, il y a eu un boom de ventes pour le film Contagion et le livre Pandémie. Mmh. Et tout le monde s'est demandé, mais pourquoi en fait, déjà, on vit une pandémie, on est déjà dans le stress, pourquoi se rajouter du stress en allant lire des choses comme ça? Mais parce qu'en fait, les gens, ils n'étaient pas si stressés par la Covid-19, ils étaient stressés surtout à cause du fait qu'on n'avait aucune réponse. On ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas s'il y avait une manière de s'en sortir, on ne savait pas ce qui allait se passer demain. Et en fait, les gens sont allés chercher des réponses dans la fiction pour s'apaiser.
Mmh. Mmh. Je comprends. Je voudrais qu'on revienne sur votre métier d'éditrice. Vous avez fait un billet récemment sur votre on dit quoi, un compte, hein, Malia? LinkedIn, c'est un compte?
Oui.
Ouais, un compte LinkedIn, merci. Où vous posiez la question de savoir si le milieu littéraire québécois était trop blanc.
Oui.
Et votre réponse est quasiment claire, nette, c'est précis. Vous affirmez oui. Le milieu de l'édition est si difficile?
Mais je me dis que à partir du moment où on vous demande c'est quels sont les auteurs racisés ou les autrices racisées au Québec et que vous êtes capable de répondre seulement deux ou trois noms, je pense qu'on a un problème. Parce que si je vous demande, citez-moi des auteurs blancs au Québec, vous allez m'en citer pendant longtemps. Mmh. Si je vous demande c'est quoi les auteurs racisés ou autrices racisées au Québec, vous allez me répondre Kim Thuy, Dany Laferrière et Michel Jean. Mmh. Si je vous demande de m'en citer d'autres, peut-être que vous avez une culture littéraire
qui va
plus importante, mais je dirais que...
C'est les populaires.
Comme en général, les gens vont répondre ces trois-là. Mmh. C'est peu. Surtout quand on sait à quel point... le peuple autochtone est grand et vaste, à quel point l'immigration est importante au Québec. On a juste ces trois-là. On a le prix du gouverneur général qui existe depuis 47 ans. Aucun auteur noir depuis 47 ans n'a gagné ce prix-là. Le seul auteur noir qui l'a gagné, c'est un auteur noir anglophone. Mais aucun auteur noir francophone n'a gagné le prix du gouverneur général, qui est quand même le prix littéraire que tout le monde recherche. Pourquoi on a tant de mal à laisser, ou du moins à publier, des gens qui ne nous ressemblent pas, entre guillemets, puisque on sait qu'au Québec, l'important, c'est la langue française. La plupart des immigrants parlent français, la majorité. Pourquoi on ne leur laisse pas un droit de s'exprimer à travers la littérature? C'est vraiment des questions que je pose. Et je l'ai vu pour travailler dans des maisons d'édition québécoises. La plupart de la bibliothèque, enfin des fonds littéraires qu'ils ont, c'est des personnes blanches.
Et je vais, Elina Timsin, me faire l'avocat du diable. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez... de manuscrits, que des autrices ou des auteurs venant de ces du moins non-blancs proposent. Peut-être que c'est ça. Mais vous savez quoi? Ne répondez pas. Faisons une courte pause publicitaire. Je vous garde encore quelques minutes. Et là, on va essayer de trouver la réponse à cette question-là.
Néo-Québec, c'est rafraîchissant.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie d'Elina Timsit, qui est la fondatrice et directrice générale de la maison d'édition Prolepse. Et juste avant, on se posait la question de savoir pourquoi le milieu de l'édition était encore si blanc ou était trop blanc au Québec. Moi, je lui disais, c'est à cause de du fait que peut-être qu'il n'y avait pas assez de manuscrits qui étaient proposés. Et vous me dites non.
En fait, oui et non. Non dans le sens où des manuscrits, il y en a, mais elles sont envoyées dans des maisons d'édition où les gens ont l'impression qu'ils auront une chance. Donc on ne va pas.
On va parler
de Mémoire d'Encrier, par exemple. On va parler de la collection, la nouvelle collection du remue-ménage.
Oui,
donc les
tout
gens
à fait.
Vont envoyer. Sauf que toutes les maisons d'édition, ou d'ailleurs la mienne, moi je reçois plein de manuscrits.
De manuscrits, oui.
Mais le truc, c'est qu'on a tous des quantités limitées de livres qu'on peut publier par année.
Okay.
Donc en fait, déjà, on a un manque de médium pour pouvoir publier plus de livres. La deuxième chose, et ça c'est souvent les gens qui m'écrivent, surtout les auteurs et les autrices qui m'écrivent en accompagnement, me font la remarque, oui, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pas le droit ou je me vois nulle part. Et là, on se pose la question de la représentativité. Le manque de représentation, justement, donne l'impression qu'en fait, il y a tellement de gens qui veulent écrire, mais tellement peu à qui on donne ce droit, que les gens, en fait, n'osent pas, en fait. Ils n'osent pas aller. En fait, souvent, il y a des gens, ils ont plein de manuscrits dans leur ordinateur, sur des cahiers. Il y a des gens, ils écrivent depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont rendus à 60 ans. Ils ont 5, 6, 7, 8 manuscrits déjà écrits qu'ils n'ont jamais envoyés parce qu'en fait, ils ne savent pas où les envoyer parce qu'ils ont l'impression que de toute manière, on va leur dire non.
On va leur dire non, tout à fait. Au-delà d'envoyer les manuscrits à votre maison d'édition pour l'EPS, mais qui, d'ailleurs, il faut que ça réponde à certains critères,
oui,
j'imagine. Quelle solution, vous qui êtes dans ce milieu-là, quelle solution vous prenez? Je veux dire, une banalité. Je veux dire, oui, plus de diversité, il faut plus de diversité, il faut plus de gens ouverts dans les maisons d'édition. Mais au-delà de cette grosse généralité, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait comme on peut déjà. On fait avec les moyens qu'on a. Puis je pense, et ça c'est, je sais à quel point c'est difficile, mais il faut juste oser. Je pense que...
Oser envoyer, c'est ça,
se montrer, par exemple, sur les réseaux sociaux. Souvent, les gens disent, bah oui, moi, je ne parle pas du fait que j'écris ou j'ai sorti un livre en auto-édition, mais je n'ose pas trop en parler. En fait, il faut oser aller au-delà de ses peurs. Et je sais que c'est dans le cas d'oppression systémique, on sait à quel point on met cette responsabilité sur le dos des gens opprimés, alors que c'est toute une société qu'il faut changer, on s'entend. Mais il faut oser, il faut créer des initiatives, il faut, comme je dis, se montrer sur les réseaux sociaux. Il y a tout ce qui est maintenant sur Instagram et sur TikTok, toute une communauté de littérature. Je pense que c'est important d'en faire partie, de se dire bah, « moi aussi j'ai ma place, moi aussi j'ai le droit », se donner ce droit-là en fait. Parce qu'on s'entend, une maison d'édition, c'est pas une OBNL. Hein.
Oui.
C'est à but lucratif, donc ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que votre livre a le potentiel de se vendre. Et on a eu aussi un problème avec la Covid, c'est que les prix des fournitures, etc., a explosé. Et en fait, les maisons d'édition se sont rétractées sur les primo-auteurs beaucoup. Et en fait, ont commencé à ne publier que leurs best-sellers, que leurs auteurs et autrices qui rapportaient, entre guillemets, de l'argent. Donc je pense que ça va venir des différentes communautés, des différentes personnes, de créer des initiatives à droite et à gauche qui commencent petits. Mais on pense à la librairie Racine, qui est juste une plateforme exceptionnelle pour les auteurs et les autrices afrodescendants. Je pense à Maggie Metellus qui a créé une fois par mois. Elle met en avant des auteurs et des autrices qui viennent lire leurs livres. C'est des petits trucs. C'est des fois, faut pas viser grand, juste viser petit, mais comme petit à petit, ça va créer un mouvement.
Est-ce que, pour finir, est-ce que le numérique peut être une solution ?
Oui, tout à fait.
Ok, c'est ça.
Oui, tout à fait. Le numérique, même si je dirais que le numérique, les lecteurs numériques sont pas encore énormes. C'est pas c'est pas un gros marché. Les gens aiment encore le contact papier. Du papier. Mmh. Mais je pense que le numérique, effectivement, peut être une bonne plateforme. Et je sais que c'est pas éthique et que j'aime pas particulièrement cette plateforme, mais Amazon. Mmh. C'est bête, mais Amazon offre une plateforme d'auto-édition qui est gratuite et qui permet d'éditer à la demande. Donc en plus, les gens peuvent avoir des livres papier à la demande. Mmh. Donc, tu sais, quand on n'a pas accès à une maison d'édition, parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde, on a un quota, entre guillemets, qu'on doit respecter, mais juste publier un recueil de poèmes sur Amazon. J'ai rencontré des auteurs et des autrices, justement, marginalisés qui publiaient sur Amazon et qui avaient beaucoup de succès. Beaucoup, beaucoup de succès. Mmh. Donc, juste essayer, en fait.
Essayer, juste essayer. Ce que vous avez fait en 2016, vous avez décidé de vous lancer là-dedans toute seule, première, voilà, dire, voilà, je vais le faire. C'est les éditions Prolepse. Oui, vous êtes ouverte, vous recevez des manuscrits
oui.
Pour ceux que ça intéresse. Et sinon, ce travail que vous faites d'accompagner en écriture créative, parce que vous faites aussi des ateliers virtuels, vous faites des formations et
exactement.
Tout ça. Donc, pour vous joindre, qu'est-ce qu'on
Instagram, ça marche bien. Par mail sur mon site web, donc édition-prolepse.com,
voilà.
Mon Instagram, inspiratrice d'écriture.
Mmh.
Et juste un petit mot sur dire que je suis en train d'organiser avec des collaboratrices un événement justement de littérature cet automne pour justement donner plus de visibilité à ces auteurs et ces autrices qu'on voit pas assez souvent.
Merci beaucoup Elina Timsit, merci d'être venue nous parler et surtout de ce que vous faites à la maison d'édition Prolepse, de ce que vous faites comme auprès des auteurs et autrices que vous accompagnez. Merci beaucoup.
Merci
et
on pour se l'invitation. Dit...
Mon nom est Cyril Ekwala.